L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Marie-Claude qui vous accueille sur cette chaîne. Et je suis en compagnie de Monsieur Habib Haider, qui va se présenter à vous et qui est originaire donc de l'Afghanistan. Et il va nous parler un petit peu de tout ce que ça regroupe pour la Maison de l'Afghanistan, dont il est un des représentants, un des adhérents de cette association. Voilà, donc... Bonjour Habib.
Bonjour Marie-Claude.
Voilà, bienvenue donc dans ce nouveau studio. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu d'abord rapidement qui est Habib Haider, parce que c'est pas voilà, c'est quelqu'un, je crois que c'est un vieux Montpelliérain malgré tout.
Oui.
Voilà.
Oui. Je suis Habib Haider et je suis un vieux Montpelliérain.
Voilà.
Parce que ça fait plus de 40 ans que je vis à Montpellier.
Oui, quand même.
Et voilà, donc je suis d'origine afghane et j'ai l'honneur d'avoir la nationalité française pour être citoyen français. Et ici, je viens représenter notre président, Monsieur Mansour Saljuki, qui est président de la Maison d'Afghanistan à Montpellier.
Mmh. Voilà. Voilà. Et que nous recevrons sûrement lors d'une prochaine occasion.
Oui. D'ailleurs, avec il s'excuse.
Avec un grand plaisir. Voilà. Donc, Habib, d'abord, comment on arrive d'Afghanistan ?
Vous concernez, par exemple ? Il y a maintes façons de... Quand on est chanceux, on vient avec un passeport et un visa.
Voilà, quand on est chanceux.
Mais comment on désire de quitter l'Afghanistan ? C'est parce qu'on a des problèmes. On est pauvre, on est opprimé, et puis on ne peut pas manger. On n'est pas autonome. Quand on a 17 ou 20 ans et que vous voyez que vous êtes membre d'une famille de 6 ou 8 et que votre père ne gagne même pas de quoi entretenir et nourrir la famille, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Quel avenir j'ai dans ce pays-là ? Et c'est comme ça que on fait tout, tant de la première chose, on apprend l'anglais. Et puis, on vend tout ce qu'on a, on fait tout pour avoir un minimum de sous pour prendre le chemin de l'exil. Et puisque depuis 40 ans, malheureusement, l'exil est devenu un moyen de quitter l'Afghanistan, derrière l'exil, il y a tout un réseau des trafiquants qui est organisé. Mmh. Et moyennant l'argent, vous pouvez arriver en Europe sans problème.
Les problèmes commencent après. Ouais. Les problèmes commencent ensuite, par la suite.
Oui, hein, voilà. Donc, mais quand on prend le chemin de l'exil, c'est qu'on a une image éloignée de l'exil et de l'Occident. Mais quand on prend le chemin de l'exil et quand... on va traverser les frontières et qu'on est persécuté à la frontière iranienne d'une manière, à la frontière turque d'une autre manière. Et puis, quand on prend le bateau et tout ça pour arriver en Grèce, et puis quand on est accueilli dans l'espace Schengen et l'espace européen, on se rend compte qu'on a pris le chemin de l'exil, mais qu'on n'a pas les outils ni la langue administrative pour se présenter. Parce que, vous savez, l'état civil qui a un sens ici, pour beaucoup d'exilés, n'a pas de sens.
Tout à fait.
La date de naissance, l'adresse, tout ça. Donc, c'est le début de la galère. Mais tout ça, on l'accepte dans l'espoir des jours meilleurs.
D'accord. Donc en fait, comme si je résume bien, on peut quitter assez facilement l'Afghanistan. Et là où ça se corse, c'est quand on arrive, entre autres,
Marie-Claude,
Schengen.
Oui, parce que si tu quittes l'Afghanistan, il y a d'abord une bouche de moins à nourrir pour le responsable soi-disant politique de l'Afghanistan. quand tu quittes l'Afghanistan et que ta famille mise sur toi, tu deviens l'espoir pour ta famille et ils vont se ruiner pour que tu t'exiles et que une fois quand tu es installé, tu puisses subvenir aux besoins de restants de la famille ou envoyer l'ascenseur pour que quelqu'un d'autre de ta famille s'exile. Et c'est très important. Je souligne ces choses-là, c'est que on a échoué dans notre politique de développement de l'Afghanistan. Voilà. Si l'Afghan pouvait manger à sa faim, il ne prendrait jamais le chemin de l'exil. Et parce que quand on a faim, on est humilié. Et parler de l'exil, c'est pas chose facile. On peut parler de point de vue politique, que ceci, cela, que bon. Mais celui qui prend le risque de s'exiler, c'est que honnêtement, il fait la balance, il se rend compte qu'avec tout ce que je vais perdre, ma langue, ma culture, ma tradition, mes us et les coutumes, je vais gagner quoi ? De l'autonomie pour dire moi, je suis capable d'aller balayer la rue en Occident, avoir un salaire, avec ce salaire-là, pouvoir vivre dignement. Et c'est on s'exile pour la dignité. Voilà.
C'est un beau plaidoyer ça, parce que justement ça vient un peu tordre le cou à tout ce qui peut circuler au niveau des idées reçues, au niveau des informations, et puis actuellement c'est d'autant plus d'actualité qu'il y a quand même ce profil, cette nouvelle loi sur l'immigration, et c'est intéressant, enfin moi ce que j'ai entendu c'est que quand même on prend le risque, c'est quelque chose que je retiens, on prend le risque de s'exiler, c'est-à-dire il ne faut pas croire qu'on part en croisière ou qu'on part au Club Med, au contraire, on prend énormément de risques et on s'arrache à son pays d'origine pour essayer justement de rentrer dans une situation meilleure.
Vous ne vous rendez pas compte, quel que soit l'âge de celui ou celle qui décide de prendre le chemin de l'exil, ce n'est pas on ne voyage pas. On n'a pas un porte-monnaie rempli et on ne vient pas avec un visa et puis reçu gentiment et poliment à la frontière et puis aller vivre. Non, on a ramassé 5 000 $ pour donner un passeur et que vous voyagez pratiquement avec 50 $ ou rien de tout. Et qu'il faut inventer la survie depuis l'endroit où vous quittez l'Afghanistan jusqu'à l'arrivée en Occident. Donc, envie de la survie et de la mendicité. Et c'est pour ça que, quand vous voyez des Afghans arriver ici, à force de subir l'angoisse, le côté humain est atténué. Ce sont des gens qui sont qui deviennent violents, qui sont angoissés et qui tremblent, qui ne savent pas quoi faire. Que ce sont comme des bêtes. Voilà. Et il fallait les accueillir, en leur dire calmez-vous. Ici, vous êtes dans un pays où il y a des règles. Il suffit que vous rentrez dans le système pour que vous trouviez un avenir. Mais en attendant ça, vous savez, moi, je ne parle que pour les gens que j'ai vus et que j'ai essayé d'accompagner. Ils sont tellement broyés sur cette 8000 km de distance qu'on fait à l'inconnu. Parce que dès que vous quittez la maison paternelle ou maternelle, vous ne savez pas entre les mains de qui vous tombez, qu'est-ce que vous mangez à midi, où vous allez dormir la nuit, qui va... Parce qu'on devient chose. Voilà. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est absolument... On ne peut pas l'expliquer.
Tout à fait. Voilà. Et puis, ce que je retiens aussi de ce qui vient d'être dit précédemment, c'est qu'en plus, non seulement il y a tout ce cheminement, toutes ces personnalités qui sont laminées, qui sont abîmées, etc., par les conditions du départ et du voyage, etc., qui n'est pas un voyage, comme vous disiez, mais il y a aussi... quelque part en arrière-plan, parce que la famille s'est cotisée, parce que la famille vous a poussé, parce que la famille a espéré, il y a une espèce d'injonction de réussite en plus, alors qu'on est déjà soi-même, en premier lieu, en première intention, on n'est pas du tout en état de réussir, puisqu'on est déjà en état d'essayer de se récupérer.
Oui, mais le poids, vous savez, cette dette à rembourser vis-à-vis de la famille. Parce que, vous savez, pour rassembler 5000 dollars pour une famille afghane, c'est colossal. Vous savez, voilà. Et quand on va ramasser ça, c'est qu'on a ruiné la famille, on a privé les frères et les sœurs d'un minimum pour vivre. Mais tout ça, vous savez, on ne le compte pas, on n'est pas conscient. Cette soif de l'autonomie, vous savez, la démocratie, le droit de l'homme, tout ça, c'est soyons humbles quand on a faim. Quand on est opprimé, vous savez, mettez-vous à la place de celui qui n'a rien mangé
tout à fait.
Et à qui vous dites « tu as le droit ». Et il me dit « mais qu'est-ce que c'est que le droit ?» Voilà. Mais on est toujours à la recherche de d'un bout de pain, de l'autonomie matérielle. Voilà. Et cette autonomie matérielle, on peut les procurer sur place. Mais moi, je vous dis, en tant que vieux Afghan, l'aide internationale depuis 50 ans, au lieu d'accorder et d'amener l'autonomie pour que les plus pauvres puissent accéder, ils nous ont miroité, lamentablement, au nom de l'occidentalisation. Voilà, il faut apprendre aux gens de produire leur nourriture pour pouvoir manger à leur faim. On n'a pas besoin ni de routes asphaltées, ni de Toyota blindés, mais on a besoin d'être accompagnés pour que l'agroécologie, l'agriculture traditionnelle afghane puisse se redémarrer pour qu'une personne puisse gratter le sol et avec des moyens extrêmement rudimentaires puisse produire de quoi subvenir aux besoins alimentaires de sa famille. Marie-Claude, je suis très sévère et 99% de mes compatriotes qui ont pris le chemin de l'exil, c'est parce qu'ils ont faim. Voilà. Voilà, excuse-moi d'être...
Oui, non, mais ça se comprend, mais je comprends, et puis c'est très émouvant. Et en même temps, ce que j'ai envie de rajouter concernant justement l'aide internationale, etc., c'est que y a des copies à revoir depuis très très longtemps, c'est pas faute de l'avoir dit. Moi, je suis beaucoup plus concernée par l'aide à l'Afrique, mais c'est la même chose. Aider à un moment, non, c'est pas aider, c'est soutenir et aider et soutenir les gens dans une démarche de se récupérer, de récupérer leurs propres moyens. Voilà. Et donc, j'entends bien cette plainte-là.
Marie-Claude, tout le monde essaie d'aider. Mais comment vous voulez aider une nation qui n'a pas d'État?
Exactement.
Vous comprenez? En Afghanistan, tout le monde... Il y a 20 millions d'Afghans qui ont faim aujourd'hui. Mais on n'a pas de statistiques. C'est approximatif. Ces 20 millions d'Afghans... n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas d'adresse. On ne sait pas qui. Un Pakistanais peut être un Afghan affamé et venir profiter de l'aide internationale. De la même manière, un Iranien. Personne ne sait. Vous savez, depuis que nous sommes rentrés dans la modernité, depuis que l'ONU et les nations occidentales nous aident, ils n'ont jamais conseillé à nous... gouvernant qui avait un daulat, ce qu'on appelle, vous savez, daulat, c'est un système administratif féodal qui capte le pouvoir dans un pays au nom de la nation, on parle de l'Afghanistan, mais c'est un pays qui n'est pas gouverné. Aujourd'hui, les talibans, vous savez, gouvernent à Kaboul grâce à l'aide internationale et parce qu'ils refusent la République. Vous savez pourquoi? Parce que la République, c'est le... Il faut rendre des comptes.
Des comptes, tout à fait.
Mais les talibans, ils gouvernent l'Afghanistan pour les 30 prochaines années, je le dis, vous savez, en envoyant les moulas dans les campagnes pour faire des palabres et de l'arbitraire dans les campagnes. Et la communauté internationale, aujourd'hui, toute la communauté internationale, les Américains, les diplomates occidentaux, les Européens sont présents en Afghanistan. Mais ils sont aveugles, ils ne voient pas qui ils soutiennent. Et c'est pour ça qu'il faut se redresser contre la manière d'aider. Vous savez, on n'aide pas les gens. Depuis 50 ans, on a soutenu les gouvernants qui ont administré un pays sans État. Mmh. Aidez-nous d'avoir un État d'abord. Aidez-nous d'avoir une nation, un pouvoir au service, enfin, un État au service de la nation et pas au service de quelques féodaux.
Alors, sur cet appel, Habib, qui est très émouvant et qui est réaliste, enfin, moi, je peux en témoigner pour m'intéresser quand même un petit peu à la marche d'autres mondes que le nôtre, que notre monde occidental est un peu aveugle. On va faire une petite pause musicale qui va un peu nous apaiser, puisqu'on va, c'est le choix d'Habib, hein, on va se passer l'Ave Maria de Schubert. Voilà, on va passer quelques minutes à se poser un peu. Et nous voici de retour dans le studio après cet envol un peu mystique, un peu magique, et après le plaidoyer passionné et passionnel de Monsieur Habib Haider, qui nous expliquait quand même qu'est-ce que c'est que d'être un Afghan obligé de quitter son pays, d'émigrer. Voilà, donc Habib, justement, on parlait de toutes ces personnes qui sont obligées de quitter le pays dans des conditions assez terribles et qui ont du mal, effectivement, avec la traversée qu'elles ont à faire. Et J'aimerais que vous nous parliez donc de l'association La Maison de l'Afghanistan.
Oui, donc La Maison d'Afghanistan, c'est une association des Afghans de Montpellier, présidée par Monsieur Mansour Saljouki. Et le siège se trouve à Ayoubi, au numéro 50 bis, rue de Figueroa.
Faubourg Figueroa.
Le but, c'est d'abord de parler de l'Afghanistan, de faire le lien entre l'Europe, la France et l'Afghanistan, humblement, mais modestement. Et puis, être à l'écoute des immigrants qui arrivent, pour les écouter, pour éventuellement les aider. S'ils ont besoin d'un traducteur, trouver un traducteur pour eux. Et puis leur faciliter leur insertion éventuelle dans la société française et occidentale.
D'accord, donc ça c'est très très intéressant parce que on voit bien ici souvent l'errance des gens, des migrants, des gens qui arrivent, qui ne savent pas du tout et comme on disait tout à l'heure précédemment, qui sont quand même dans un état un peu d'hébétude vu la complexité de ce qu'ils ont à vivre et vu aussi souvent la problématique de pouvoir un peu se nourrir au moins. Et donc je trouve que c'est formidable que déjà votre association propose déjà ça.
Oui, mais on est tout petit et on n'a pas beaucoup de moyens.
Oui.
Mais on est comme des facilitateurs, voyez.
Voilà.
Si un jour, à la CIMAD, quelqu'un a besoin d'un traducteur, on nous téléphone, on est là.
Ça, c'est formidable.
Et si un jour, quelqu'un est dans la rue et que malheureusement, le 115 n'a pas de place pour... on met tous nos contacts en marche pour que celui ou celle qui se trouve avec des enfants, grâce à l'aide de vous tous, les amis français et montpelliérains, trouve un hébergement et l'espoir pour vivre. Vous savez, ce sont des gens qui sont dans une sorte d'inquiétude incroyable. Et à force d'être inquiets, ils ne peuvent même pas espérer. Et on a beau de leur dire que espérez parce que vous êtes dans un pays où il y a un État, une administration, des institutions qui vous écoutent et que si vous méritez réellement d'être accepté et de vos papiers qui deviendront en règle, eh bien, vous avez toute la possibilité de faire partie de cette société-là et commencer une nouvelle vie. Mais on est tout petit. Notre ambition est immense parce qu'on a envie d'être, de contenir et de présenter la générosité de la France, mais sans dire venez, venez, venez. Non, attention. On dit attention, vous êtes en France. Oubliez vos us et les coutumes. Ici, maintenant, il faut devenir citoyen. Pour être citoyen, d'abord, il faut avoir une carte d'identité dans sa poche. Parce que nous, vous savez, quand on est né sans identité, on n'a pas de carte d'identité. Et puis, on est une société à culture orale. On n'a pas... tout n'est pas écrit. Et quand un réfugié arrive ici, il est perdu quand il se trouve avec un dossier et des lettres qui arrivent tous les jours pour lui. Donc, il faut que quelqu'un, et ça, c'est, je ne sais comment remercier les associations comme GAM, les assistantes sociales, etc., qui accompagnent avec énormément de dévouement et de générosité et de gentillesse ces gens-là. Mais malgré ça, ils sont très les gens qui arrivent, ils sont très impatients. Ils ont envie que tout se fasse le plus vite possible. Et la Maison de l'Afghanistan est là pour leur dire patience, patience, patience. Attendez que votre tour arrive parce que quand votre dossier est sous une pile de 300 ou 400 d'autres dossiers, et ici, on ne peut pas pistonner pour que votre dossier arrive le premier. Donc, voilà, J'espère que notre président, M. Saljuki, dira la même chose. Le but de la maison de l'Afghanistan, c'est apaiser les gens, de leur donner les codes de la vie en Occident d'une part, et puis expliquer si besoin est, en traduisant l'attente des arrivants.
D'accord. Et justement, je pense que c'est intéressant aussi, parce que même si vous dites on est tout petit, c'est rien, mais je pense que c'est pas rien d'être accueilli par un compatriote qui parle la même langue, qui en même temps a la connaissance déjà du terrain sur lequel on arrive, on est complètement perdu. Et je pense que déjà, ça a un petit facteur apaisant, et en même temps de guide, quoi. Oui. Parce que c'est vrai qu'après, on a des services, heureusement qu'il y a des associations qui sont très présentes. Mais je pense que c'est important à un moment qu'il y ait un accueil, en tout cas, de. Voilà, la maison de l'Afghanistan. On vient d'Afghanistan, voilà. Donc quelque part, il y a une maison qui nous aide à, justement. Voilà,
mais vous savez, l'attente est immense. Et nous, on ne peut pas. Et nous n'avons pas, et nous ne voulons pas. Vous savez, remplacer ni les institutions qui s'occupent de ces choses-là. Nous, on est juste le trait d'union pour dire, voilà... on est arrivé avant vous, comme l'autre soir je vous ai expliqué. Moi-même, je suis arrivé comme réfugié. Alors que j'étais quelqu'un en Afghanistan, du jour au lendemain, j'étais rien. Je suis arrivé, en français, vous savez, arrivé à Paris, j'étais pas habillé correctement. Vous savez, heureusement que j'avais des amis qui m'ont donné leurs quelques chemises et polos verts. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis très reconnaissant. À chaque fois, quand je pense à mon arrivée à Paris, je vois ces copains qui sont arrivés, qui avec une chemise, qui avec un polo vert, pour que moi, je ne meure pas de faim. Et ils m'ont tendu la main pour que je puisse aujourd'hui venir témoigner devant
vous. On appelle ça la solidarité, ça existe à l'international, ça. Ça existe un peu partout.
Oui.
Mais tant mieux, enfin, je veux dire, c'est providentiel.
Pour les gens comme nous qui sommes là, le poids est immense. On ne peut pas supporter ça. Vous savez, il m'est arrivé d'assister les gens et de pleurer.
Ben oui, bien sûr. C'est très émouvant. Alors, Habib, comme il va falloir qu'on allège un petit peu
nos propos. Parce que je suis un acteur. Hein.
Oui. Et j'aimerais rappeler, enfin, peut-être dire à nos auditeurs que déjà, les Afghans parlent le farsi, c'est-à-dire ils parlent la même langue que les Iraniens. Donc, c'est le vestige de la Perse, de la Perse ancienne. Et donc, du coup, il y a quand même des traditions très, très anciennes, parmi les plus anciennes du monde. Si on exclut la Chine, dont on ne sait pas tout. Et hier soir, la Maison de l'Afghanistan avait organisé une commémoration, je crois que c'est...
Une soirée qui s'appelle la Nuit de Yalda.
Voilà, la Nuit de Yalda, à la Maison des Relations Internationales, avec l'accord de la métropole. Voilà,
tout à fait.
Le parrainage de la métropole.
Et c'était une manifestation collective avec les amis iraniens. Et un ami ouzbek qui nous avait fait de la bonne cuisine. Et le but, c'était de rassembler les différentes nationalités qui partagent le même air culturel pour parler de leur tradition, de leur us et coutume selon les saisons. Et la nuit de Yalda, c'était une soirée, c'est une tradition de fêter la nuit la plus longue de l'hiver. Et c'était une tradition que nous, les Afghans, les Iraniens et les Tadjiks de Tadjikistan, nous avons hérité cette tradition-là de l'époque de Zoroastre, il y a des millénaires. Oui. Voilà. Mais chacun le fait à sa manière. Mais avant que les frontières nous sépare,
oui.
Nous étions les mêmes peuples.
Tout à fait. Tout à fait.
Et nos commerçants et nos savants et nos poètes voyageaient d'un contrée à l'autre. Ils étaient choyés parfois par les princes et les rois d'Iran et parfois. Quand la page était tournée, ils venaient en Asie centrale, en Afghanistan, ou aller un peu au-delà de Damoudaria, à Bukhara. Toujours, il y avait une va-et-vient, mm-hmm. et que c'était une tradition, parce que notre histoire n'est pas écrite, mm-hmm. était, grâce à ces pratiques-là, mm-hmm. était... répéter, remémorer de génération en génération pour que les gens puissent pratiquer ces us et les coutumes de l'époque de Zoroastre.
De Zoroastre.
Et vous savez, malheureusement, c'est un réformateur très peu connu et que chacun de nous, nous le présentons qui comme prophète, qui tout ça, mais en tant qu'être humain, c'était un des grands
tout à fait.
Génie de l'humanité qui est arrivé de ce contrée-là et qu'on nous raconte à travers des contes de nos grandes-mères et puis les écrits de quelques poèmes comme ce fameux Ferdowsi, qui nous dit mais qui sommes-nous et quel est le but? Et Zoroastre était, une fois quand la nourriture s'est améliorée et que les habitants d'Asie centrale, dans les bordures d'Amoudalia, se sont sédentarisés, ils ont eu un roi qui s'appelait Djamshid. Et Djamshid s'est trouvé d'un seul coup, devant une population importante à nourrir. Et pour nourrir cette population-là, il a dit « Trouvez-moi quelqu'un qui puisse nous donner des règles de gouvernance et de gérer la société. » Et c'est comme ça que Zoroastre fait son apparition et il va créer des principes qu'il inculque chez les gens au nom des divinités. Et c'est comme ça que Mitra, Dieu de la lumière et de feu, fait son apparition grâce à Zoroastre pour chasser le ténèbre et ouvrir la voie pour l'espérance.
Oui, alors d'accord, et j'invite justement nos auditeurs, si le cœur vous en dit, de s'intéresser beaucoup à cette religion qui célèbre la nature, hein, puisqu'il y a il y a la nuit la plus longue, il y a le jour, il y a le départ du printemps, il y a vraiment les saisons et tout ce qui est de la terre est complètement célébré, commémoré, et c'est une religion très très, et j'oserais dire à monsieur Habib que je crois qu'encore le zoroastrisme il survit dans beaucoup d'entre vous.
Oui, sachez que maintenant, il est pratiqué comme religion. Mais il est arrivé comme
tout à fait, pensée, bien, comme pensée. Ça, voilà. Comme système de pensée après s'est instauré. Ouais.
Sachez ça donne de la richesse. Sachez que c'est antérieur.
Oui.
Je parle d'il y a 5000 ou 9000 ans.
Tout à fait, voilà. D'accord. Voilà. Nous sommes d'accord. Bon, écoutez, je suis un peu frustrée parce qu'on va être obligé d'arrêter là, hein, le temps le fait, mais je pense qu'on va se revoir, y compris avec le président qui n'a pas pu venir aussi aujourd'hui, et qu'on continuera à parler un peu de cette cause afghane qui est aussi considérée comme importante ici à Montpellier. Donc monsieur Haider, merci beaucoup Habib pour le prénom de ce témoignage.
C'est moi qui vous remercie. Vous savez, je vous remercie mille fois de parler de l'Afghanistan, alors que dans le monde, il se passe des choses atroces.
D'accord.
Et que l'Afghanistan ne fait pas partie des actualités.
Malheureusement.
Mais je vous demande humblement de parler de ce pauvre peuple.
Ouais.
Parce que ils ont besoin d'être écoutés, entendus et aidés. pas matériellement, mais compris.
Compris. Et se sentir entendu et compris. D'accord. Donc voilà, je vous dis au revoir à tous. Merci. D'abord, je vous rappellerai que nous sommes sur FM+, et que les Échos de la Solidarité Internationale, c'est hebdomadaire. Je remercierai la technique. Monsieur Stéphane, Yann aussi. Et donc, je remercie beaucoup Habib Haider de ce témoignage émouvant et passionné. Voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci.